Merci beaucoup à Entre Revues de l'invitation qui nous permet d'ouvrir la saison parisienne de l'Ours Blanc. Nous serons de retour au mois d'octobre et pour différentes lectures aussi. Merci et puis aussi félicitations pour le travail que vous faites. Je rappelle en passant que c'est bientôt le salon de la revue dont vous êtes la cheville ouvrière et la tête pensante. Et Entre Revues, d'une manière plus générale, accomplit un travail à l'égard de la publication et de l'édition des revues, qui est un travail remarquable à la fois d'histoire et d'histoire critique. Donc je pense que là, il faut vraiment les soutenir. En tout cas, je vous engage à venir nombreux au Salon de la Revue. Vous y découvrirez énormément de choses. Je crois que cette année, il y a beaucoup de participants, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, et dans des domaines très divers. Un petit mot sur l'Ours Blanc pour commencer, mais beaucoup d'entre vous connaissent cette revue, donc je serai rapide. C'est une revue, c'est aussi une collection de petits livres agrafés. C'est-à-dire que lorsque nous avons fondé la revue en 2014, à Genève donc, et non à Lausanne, avec Alain Berset, l'éditeur, et Vincent Barras, qui est traducteur et performeur. C'était l'équipe constitutive. Depuis, d'autres membres nous ont rejoints. Nous avions cette idée de créer une revue qui soit un peu différente des autres, c'est-à-dire qui ne reprenne pas le format habituel des publications qu'on trouve d'ordinaire dans les revues, souvent des extraits ou des passages de livres à venir, à publier, etc. Chez nous, l'idée était plutôt d'avoir des textes qui soient des textes plus complets, d'où le format de la revue, qui est celui-ci, une trentaine, parfois même 40, voire 50 pages, qui permettent de publier un texte dans son intégralité, et donc de consacrer un numéro à un auteur ou à une autrice pour un texte qui parfois a été conçu spécialement pour l'Ours Blanc. C'était le cas pour Pascal Poyer, Marie de Quatre-Barbes, ou que parfois nous récupérons et que nous publions en traduction, par exemple. Ça a été le cas pour le Cathée d'Ezra Pound, traduit par Pierre Alféri, qui vient de nous quitter. Ou, non, Nome, tu l'avais écrit pour la revue. Hein, Nome, toi, tu rentres. Henri Lefebvre, le numéro 30 de l'Ours Blanc, a écrit un texte aussi pour la revue. Voilà, je dirais que en même temps, ce format un peu particulier de texte un peu trop court pour faire un livre, un peu trop long pour être publié d'ordinaire en revue, fait aussi que nous avons accueilli des textes avec des inscriptions génériques, je dirais, problématiques. Et donc l'idée de la revue, c'était aussi de défendre ce type de recherche en écriture qui circule entre les catégories, qui est de la poésie et de la prose, qui est de l'essai, de la philosophie et de la poésie, etc. Le but étant au fond de faire connaître ce type de littérature dont on pouvait penser que par ailleurs, il ne trouverait pas forcément à être édité par les canaux habituels. Voilà, j'en dis pas plus pour ce qui est de la revue, mais je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a après la lecture. Alors, je vous présente brièvement aussi Jean-René Lassalle. Jean-René Lassalle, il est poète. Il est traducteur, et je dirais qu'il est autant poète que traducteur, et il est traducteur quand il écrit de la poésie et poète quand il traduit. Arrête-moi si je dis des bêtises, hein. On le connaît par les livres qu'il a publiés, beaucoup aux éditions Grège et chez d'autres très bons éditeurs. On le connaît aussi pour son travail de, je dirais, en plus de traducteur, vraiment de passeur de la poésie contemporaine mondiale, notamment les dossiers qu'il réalise depuis plus d'une dizaine d'années pour Poésie Bao, hein, qui sont des dossiers de traduction et de présentation de l'œuvre d'un poète ou d'une poétesse, très bien documentés, avec des références, avec des liens qui permettent de découvrir véritablement, enfin en tout cas moi, qui m'ont permis de découvrir beaucoup de poètes que je ne connaissais absolument pas. Je dirais donc aussi que c'est un grand lecteur. Je pense, et un traducteur aussi depuis, enfin en français, de l'allemand et de l'anglais majoritairement, mais, et c'est là aussi un trait caractéristique, je crois, de son travail de traduction, il traduit tout un tas d'autres langues, le chinois, le letton, le persan. Et peut-être pourrons-nous lui demander tout à l'heure comment il fait pour aborder ces langues, parce que je crois qu'il a une pratique de la traduction ou une définition de la traduction qui lui permet de la pratiquer aussi d'une manière tout à fait singulière. Alors, quelques mots maintenant de la lecture que il va donner ce soir. Onde des lingots pensem, donc que nous avons, qui est le numéro 37 de la revue L'Ours Blanc. Je me permets de te lire et de te citer, hein, pour présenter ce texte. La structure est inspirée par la liste originale de 100 mots développés par le linguiste nord-américain Maurice Vadesh entre les années 50 et 70. Qui voulait recenser les concepts les plus répandus communs à un maximum de langues. Donc le livre s'ouvre sur la liste de Svadesh, qui est reproduite telle qu'elle en anglais. Et Jean-René a suivi cette liste dans l'ordre d'apparition de ces mots-concepts, qu'il a traduit en français, et pour chacun desquels il a écrit un tercet. Il indique ceci: cette liste m'a semblé déclenchée comme la forme spectrale imparfaite d'une langue universelle imaginaire ou du langage même. Ainsi, les ondes ternaires du rythme de ma poésie infusent chaque mot choisi par Svadesh dans leur ordre d'apparition dans la liste. L'ensemble des 100 tercets constitue donc un poème général, mais chaque tercet, tu l'indiques aussi, peut être lu indépendamment. Alors, après la lecture que va faire Jean-René maintenant, qui est non pas une lecture intégrale, mais une lecture d'un extrait de ce texte, qui sera suivi d'une autre lecture, nous pourrons lui poser les questions que j'imagine la découverte de ce texte ne me manquera pas de susciter. Et moi, j'en aurai quelques-unes aussi à lui adresser. Et je vous parlerai peut-être encore un peu de sa poésie et de la réception que j'en ai eue au moment où il s'agissait pour nous de la publier. Voilà, sans plus tarder, je lui passe la parole.
Une liste. de mots, concepts, des lingots pensèmes. Un, beaucoup, petit, femme, homme, humain, arbre, racine, tête, cœur, voir, dormir, mourir, voler, verte, long, lune, sable, terre, nuage, froid, plein, rond, sec, nomme, onde des lingopensèmes modélise. Un, beaucoup, petit, femme, homme, cherchant union, une de la rouge hirandole, telle extase inversant l'écrasement natal, résultant en épuisement aux fenêtres luisantes. Diode aurée qui douche des parois les cloques de sanglots, lancée au filtre de multiples bosquets chatonnés, la bride éblouie par les jaspés de chiffres, fut restreint lorsque, petit, dans jardin astré de nocturne, sous verte Vénus, Mars Rosso et Jupiter Azur, infime pas tranchant fil d'ombre froide durant floraison. Une figure de femme bisant sœur parmi tenture nébuleuse, ligne de vie apposée annonçant voyage d'enfant, en train sombre confiant Pietà au verger de Pivert. Agitation de points bourdons soupesant sève, soutenant frère et s'habillant, battelant Jean de l'Orge. Tourbille de colorisation, goutte lourdant sur jonquille. Un, beaucoup, petit, femme, homme, humain, arbre, racine, tête, cœur, mi-humain se rassemble ou s'éloigne affairé, tous construisent des réalités, chute, relevaille, et silhouetté sur horizon arc-en-cielé, tic-tac cristallin, lissant l'incomplète liste en larynxée de l'arbre universé aux branchus double articulés en sèmes et faux nuls. Sans racines, les engrenages excavatricophères jette père en même prison panoptique que enfant résigné, là au cou né mouillant l'épaule basse par cils souterrains. Concept primaire de pensée, d'une tête se coloriant, boule effarée travers vertigineux, sérodant viral à vrir, cerveau générant pastel souvenir en poudroyement, centre, cœur, gong, ondoyant la machine écarlate, broye la rose en cristaux et plasma d'astre dans glace brûlante, en pompe qui pense, étincelante de perce-brume. Humain, arbre, racine, tête, cœur. voir, dormir, mourir, voler, vers. L'œil enfle, géode exponentielle pour démultipliant miroré monde. Quand la vague sombre étoilée monte en mur de jade quartzé, pour voir l'immense diaphanerie du vertigoscope, désorientant et s'en insurger. Voyant yeux clos, l'encens sémiodendrite glisse dans l'air glacé du songe. Car Hypnos, en phare des frères frôleurs, guide vers la corne et l'ivoire de portes à choisir pour dormir debout mort ou errer vivant rêve. Pourri de corps intégral, crèverait une émeraude hyacinthe dans mosaïque familier qui avance main vers rien, ou réveil, ou métaniveau, hallucination, omniperte ou multidimension. Même une marionnette géante étalée dont levage inévoquerait métamorphose rédimente. Au-delà de l'annonce d'autolyse partageable et rejetable, ces lueurs en ondes ternaires poussent l'attendant golem léthargé à se hisser, patchworker, hors gravité du réel, tel voler parallèle à une aimée âme ailée qui longuement se soustrait dans en ciel. Sera pas vrai que ces dominos humains, émaux liés, tomberaient l'un après l'autre dans un vert sommeil, glauque émeraudé, car substrate une altre réalité, plutôt de reverdicrocusé aux instruments de perception physique et méta. Voir, dormir, mourir, voler, verte. Long, lune, sable, terre, nuage. Dans le chaos des calculs, les pépites d'harmonie constructent angoisses, où l'éparpillement en volutes de couleurs s'allonge indéfiniment sur quelques notes de musique délestant secondes de monde. Mutisme sous lune à mûrir mu, criblé d'expressifs en B rubis sur lèvres bleuies, de silhouettes à définir, évanescent au sein d'irrémédiables. Que synchronise clepsydre d'heure slow effervescente en fuseau jaune dans ultramarin. Le sable en dune les pas face au vent marin, la bouche une et les deux mains, le cœur un et deux poumons, le cerveau un et puis deux yeux déchiffre la sablier. La terre, en motte s'effritant, est celle carpente fantôme scrieur qui mime déformant le miroir du présent. et les bouts séchés ou attendre langer de lin la résorption de la foudre en contorsionniste dans les souples souffles. Des nœuds atmosphériques se dissolvent en l'avenir, saupoudrant la mer de nuages. Et la modélisation re-recherche l'apparition en complémentarité primo-colorée d'une articulation logique qui déclenche une énonciation mouvante, poreuse. Long, lune, sable, terre, nuage. Froid, plein, rond, sec, nomme. À ravauder dans l'aspire-respire à vigueur verticale des 10 000 êtres langus, blatérant myriades de sons articulés, d'emblée incompréhensible, en vapeur de gel, organisé par paradigme structuré, finalement identifiable comme sémantique. Ceci parachevant plénitude pour l'évidé esprit qui recueille ce qui semble un polysémique mot pour mot. Morpho originé dans le dire de m et la bouche en o phonétrisée se détache en fruit de branche pour entrer dans circularité en arc solaire de cette modélisation d'éléments non trop particuliers, peu incohérents, insuperficiels et clarifiant caressamment l'interne d'écorce implantée en souterraine bioluminescence. Sec, non sec, vivant, s'impervirant, ou similimore, vert vic, couvert, moussu, fondant en humus, abreuvé par sol et ciel, puis métaphysé, arboréant toute langue, même en matière noire ciselée d'argence, quand locuteur s'y estomperait. Par quelle, ici, lève, se dresse, redresse, ou perpétuum fut debout droit, encore existera. Donc, à l'arbre, à l'animé, à la liste, à la charpente, à l'onde ternaire modélisant, dirait une parlante sur ton front, j'écris ton nom, langage. Froid, plein, rond, sec, nomme.
Alors, il y a encore une lecture d'un texte plus court, et cette fois-ci, c'est un extrait d'un autre livre de Jean-René qui s'appelle Trilling. Tu vas expliquer de quoi il s'agit ou tu... Non, c'est moi qui dois le faire, donc très bien. Donc, simplement pour le dire très vite et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, Trilling est un ensemble de poèmes qui sont des autotraductions. Le premier poème est écrit en français, donc par Jean-René Lassalle. Il le traduit ensuite en anglais. Et en le traduisant, il le modifie. Donc il essaie de voir quelle potentialité l'anglais permet d'ajouter au poème dans sa version française. Puis, partant de la version anglaise, il passe à une version allemande, selon le même principe, ce qui lui permet de retoucher finalement, à partir de la version allemande, le premier état français du poème. Voilà.
Trilling. Musique. In this multilingual world, un monde de polyglottes traversant les frontières, on entend les musiques hybrides de plusieurs langages qu'on maîtrise jusqu'à un certain niveau, celui nécessaire, obtenable, oubliable, améliorable. Dans un état psychosocial de voyageur, exilé, frontalier, minoritaire, communautaire, traducteur, idiomophile, rise, exil, Minderheit, Grenzgang, Übertragung, langage. Speaking English while learning German in Berlin, later writing again in French while thinking in German. Les trois langages flottent dans la tête et la langue maternelle devient étrangère. Ent, verfremdete, Mutter, Sprache. No speaker is perfect. Forme, process, autotraduction, no machine, avec translucination, métamorphose. Langue 1 est transcrée vers langue 2. Language 2 is translucinated towards language 3. Sprache 3 wird rückübertäumt nach Sprache 1. The origin disappears. Weder Quell noch Zielsprache. Hologramm de Babel tourne. Qui? Who? Wer? Advenu? Donnant voix. Being came already. Nim, nam, nomen. Prends ce qui nous est devenu cher. Black bus won't take which us. Chat von wegwerf chips. Quelque chose, une qui. What has become of it? Time. Wem wird nicht wahr? Qui nous devenu est? Prends ce et cher. Ce qui résonne. Est. Ce tout prend cher à nu. Événement qui donnait, ne venu, revenant, advenu donnant voix. Nous, chers, éprendre ce qui est, quoi nous prend, vers devenir, à déprendre, au tout venant, cher le tout, cher, devenu devenant. Prens qui no os nus na nikra nu davinus o cheb, qui churo. Prends ce qui nous est devenu cher, ou devenons. Nous, jusqu'où, évoluant dans le devenir, quelque chose, une qui, pourquoi devenu qui est, comment devenant et quoi? Who became is. For which we've come, is to be taken from ourselves what becomes to every worth, or to whom is worth now becoming, if not us has what has to take, some which being came already. This worth, which was to us work, coming to flesh a flash, worth a mistake, becoming, chit, knit, ache, woo, earth, to not club chubs, well-shaped guy, kick to cheer up, black bus won't take which us, tech, don't tech, what became worth to us, first take. Our wit, we're evolving, moving in becoming. What has become of it? Time. Then, which, why, become, should. Wer zu uns würde, wahr soll nehmen, was uns Osten ist, teures als unwahr, dir wir uns du geben nehmen, über wahr und wahr, jetzt Norden zu bist uns, nimm, nahm, nomen, nomen hatte hat, was gewordenes geben, nehmen Teufel ab, zu teurer als was für uns Arbeit ist. Hat's, hat ist, gewordener Wind, wird was werden, nimm weg Fleisch, nimmt immer Arme von. Zurecht flecht es mitfliegend, wohler Tschat von Wegwerfchips, will's nehmen, was uns teuer wird. Das Bewegen beim Werden will hier niemand betäuben. Wem wird nicht wahr, warum ist, wie wäre, wie wird. Advenu, donnant voix, being came already, nim, nam, nomen, prends ce qui nous est devenu cher, black bus won't take which us, chat von Wegwerf chips, quelque chose, un qui, what has become of it? Time. Wem wird nicht wahr?
Merci pour cette double lecture. Elle peut peut-être, elle va sans doute susciter des questions de votre part. Moi, j'en ai quelques-unes aussi à poser à Jean-René. Mais je vais peut-être commencer, puis je vous passerai la parole, à moins que quelqu'un ait le besoin pressant de poser une première question. J'aimerais revenir sur cette fameuse liste de Swadesh, parce qu'on a l'impression qu'elle a été pratiquement écrite spécialement pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que il me semble qu'elle recoupe un peu l'ensemble des préoccupations, mais aussi des obsessions qui sont un peu les tiennes dans ta poésie. D'abord, il y a 100 entrées. Or, 100 est un chiffre qu'on retrouve aussi dans tes poèmes. Tu as écrit ces 10 fois 10 poèmes carrés, hein, qui ont été publiés chez Grège. Et puis, souvent, dans ton œuvre et dans les explications que tu en donnes, mais y compris dans certains des tercets des ondes des lingopensem, revient cette idée d'un arbre qui permettrait de manifester ou de représenter ce qu'est le langage et le rapport de la poésie au langage, avec un tronc commun à toutes les langues. Et puis, tu le dis, des branches qui seraient les branches qui correspondraient aux différentes langues parlées. Donc on a l'impression aussi avec cette liste de Swadesh qu'on a là ces fameux 100 concepts ou 100 universaux à partir desquels on pourrait imaginer qu'existe une espèce de langue universelle aussi, ou qu'en tout cas on pourrait la postuler par-delà la multiplicité des langues. Comment est-ce que tu es tombé sur cette liste de Swadesh?
C'était il y a très longtemps, avant l'apparition de Wikipédia. J'avais déjà vu la liste de Swadesh. Elle est des années. Enfin, il l'a composée entre les années 50 et 70. Il l'a composée pour. Enfin, c'était un grand linguiste américain qui a publié un livre sur l'origine du langage. Donc, j'étais fasciné. Et il a essayé de trouver une liste de mots qui correspondent à la plupart des langages du monde, en commençant par les plus importants. Donc, le premier mot de la liste, qu'est-ce que c'est ? Peut-être le mot le plus important de toutes les langues. Ah, c'est je. Le premier mot, c'est je. Ouais. Après, ça continue. Il y a tu, il y a nous, il y a ceci, il y a cela, il y a grand, petit, les couleurs, etc. Et bon, au début, il avait eu la liste de 250 mots, puis il l'a réduite. En 20 ans, il a abouti à 100 mots. Et cette liste, on la retrouve souvent. Ouais. Et bon, cette liste m'a fasciné. Et pour lui, c'est un linguiste, donc elle n'est plus utilisée peut-être de la manière dont il voudrait, mais elle est encore utilisée pour des langages qui sont un peu inconnus, pour lesquels on ne peut pas comparer vraiment. Donc on utilise cette liste Swadesh pour chercher les 100 mots dans une langue qu'on ne connaît pas. Il y a encore quelques langues du monde qui ne sont pas bien déchiffrées. On utilise la liste Swadesh. Ouais. Mais bon, pour moi, c'était fascinant. Et Quand je vois cette liste, j'ai l'impression qu'il y a comme un squelette du langage qui se crée avec les 100 mots concepts de toutes les langues. Évidemment, bon, on ne trouve pas le mot voiture, par exemple, dans la liste, parce que il était un spécialiste des langues de peuplade proches de la nature. Il n'avait pas de voiture, mais bon. Effectivement, chez les Amazoniens, il n'y a pas de voiture, alors bon, ça ne dérange pas. Oui, et bon, j'en ai fait un poème. Pour chaque mot de la liste, dans l'ordre, je le fais résonner dans un tercet. Et puis, mais ça se détache petit à petit de la liste. Et puis, les 100 tercets qui suivent la liste Swadesh construisent petit à petit comme un grand serpent du langage. Et c'est une idée que j'ai aussi, peut-être c'est imaginaire, mais que il y a eu une langue, une proto-langue imaginaire, universelle, bon, une espèce d'arbre du langage où chaque branche est partie comme un langage, une langue régionale ou une langue nationale. Et donc avec cette liste Swadesh, en tout cas pour la sémantique, on retombe dans le tronc de l'arbre originel. Mais c'est peut-être imaginaire, mais en tout cas ça me sert à écrire ma poésie. Ça, c'est...
Ouais. Alors tu parles justement de ces tercets. Et dans la petite note explicative qui est publiée dans L'Ours Blanc aussi, et tu dis que les ondes ternaires du rythme de ta poésie, entre parenthèses, expressionnisme abstrait à pointe arbrute et contrainte formelle. J'aimerais que tu m'expliques la conjugaison de l'expressionnisme abstrait, des pointes d'arbrute et des contraintes formelles, si c'est pas trop te demander.
Écoute, j'ai écrit ça pour toi, hein, pour que tu aies une explication.
Pour que je pose la question.
Pour que tu aies une explication dans ta revue, parce que tu m'as demandé d'expliquer un peu ce que je faisais. Alors
l'expressionnisme abstrait, d'abord. Donc, c'est une référence à la peinture américaine.
Ben oui.
Oui,
c'est ça. Parce
donc,
que
la première référence n'est pas littéraire, elle est plutôt picturale.
Oui.
Ou plastique.
Bien sûr, mais c'est quand même. J'écris des mots, j'écris dans un langage. Je ne fais pas de la peinture, mais il y a un côté jaillissement, quelquefois, improvisation, comme Jackson Pollock, un peu. Il y a un côté improvisation, et après je coupe, j'enlève, je jette beaucoup, et puis je garde certaines choses, je les retravaille, mais à la base, il y a une improvisation, comme Pollock, quoi.
Donc on irait de ce premier mouvement, qui est vraiment cette espèce de jaillissement, qui pourrait faire penser justement aux pratiques de l'expressionnisme abstrait, pour arriver au final, au contraire, à une formulation beaucoup plus contrainte, puisque tu parles des contraintes formelles, oui. Et que ce sont elles qui organisent ta poésie.
Oui, parce que ça donne une impression de chaos, et j'ai besoin d'organiser le chaos. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de poèmes carrés, parce que ça organise très bien le chaos. C'est une carré, c'est une symétrie très simple. Mais bon, là, c'est une autre sorte de contrainte formelle. Il faut dire que les contraintes formelles, ça m'aide, ça sous-tend le poème, mais ce n'est pas non plus comme l'Oulipo, ce n'est pas extrêmement important non plus.
Et que viennent faire les pointes d'art brut là-dedans?
Oui, c'est les petits accès de folie que chacun a, n'est-ce pas? Et quelquefois, je ne peux pas m'empêcher de... Voilà.
Alors j'ai essayé d'en repérer là-dedans, mais j'avoue que je les ai pas
trouvés. C'est pas grave, hein.
Mais
il vaut mieux pas.
Hein. En tout cas, on voit bien aussi que la manière que tu as de te saisir de cette liste et de l'injecter dans ta poésie, parce qu'au fond c'est ça, elle l'irrigue, hein, d'une certaine manière. Elle est placée en tout cas sous l'angle de la complexité.
Oui.
Et je pense que reconnaître à la fois dans le mouvement du poème cette espèce de nécessité qui fait qu'il y a un jaillissement à un moment donné du langage qui n'est pas contrôlé et en même temps la volonté de lui donner un cadre et un cadre extrêmement précis. Je pense d'ailleurs que ta performance nous permet de comprendre cette précision, cette manière que tu as de ritualiser et de... presque avec des gestes liturgiques, si on pouvait parler d'une liturgie qui serait une liturgie profane, justement le jaillissement de la parole poétique. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout à fait singulier dans ton écriture.
Tu poses plusieurs questions en une.
Oui, non. Alors là, en fait, j'ai même pas posé de questions. Je crois que j'ai dit un peu ce que je pensais de cette poésie, mais ça m'amène à poser vraiment maintenant alors des questions plutôt qui seraient des questions plus ponctuelles sur le rapport à la langue, le rapport au langage, notamment le rapport au français. Par exemple, tu traduis chacun des termes de la liste de Swadesh. Et le 47e concept, ou mot-concept, en anglais, c'est « ni ». Et tu le traduis, il faut que je retrouve ça.
« Génu ».
Par « génu ». Voilà. Je crois que c'est à la page 21, il me semble.
Je les transforme.
Donc,
je ne les laisse pas tels que.
Voilà. Et là, j'aimerais bien savoir, parce que ça donne... articulatoire rotulé huilé sous ménisque, génu à la ligne flex. Donc, en plus de ça, tu coupes le mot, il n'y a pas de tiret.
Oui.
La traduction, chaque mot de la liste de Swadesh est présenté en italique dans le tercet. L'italique concerne génu, pas flex. Donc, il y a vraiment cette idée que la traduction, c'est déjà un acte poétique aussi ou une appropriation du mot. C'est pas juste la traduction de ce mot. Il n'y a pas genou là-dedans. Il y a génu, qui bien entendu dérive de genou. Et puis, en plus de ça, tu, tu continues avec ce flex qui fait penser à la génuflexion et à un tas d'autres choses. Et ça m'amène à te demander, peut-être à revenir à ton travail de traducteur, et à te demander comment est-ce que tu envisages la traduction, la question de la traduction. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière à chaque fois écrire aussi un poème à partir de chaque mot que tu traduis, ou parce que on a l'impression que les tercets là sont comme l'extension de la réflexion que tu pourrais mener aussi en tant que traducteur à partir de ces mots que tu vas chercher dans la liste de Swadesh. Et je me demande si d'une certaine manière quand tu traduis de la poésie aussi tu fonctionnes pas de cette façon-là. Je ne sais pas si ma question est claire, elle est longue. Mais...
Ouais. En fait, j'ai deux pratiques. Je suis traducteur et je suis poète. Mmh. Bon, je fais à 50-50%. Mais quand je suis poète...
50-50
50-50, à peu près. Ouais. Et quand je suis traducteur d'un autre poète, je respecte absolument le poète ou la poète, comme Frédéric Mayrecker. Et je me mets dans la peau de la poète pour recréer sa langue avec grand respect. Mais dans ma poésie, j'utilise des processus d'auto-traduction. Et là, je ne respecte plus mon propre texte. Ça me sert à métamorphoser le texte. Quand je traduis un mot français en anglais, je change les mots, je change les motifs. Je traduis l'anglais en allemand, je change encore. Et je reviens au français, je change tout. Donc, moi, quand je traduis un poète, je le respecte. C'est la traduction traditionnelle. Mais quand je me traduis, moi, c'est une machinerie qui permet de transformer, métamorphoser le texte.
Et comme Swadesh n'est pas poète, tu te permets de le traduire en allant du côté des pratiques qui sont plutôt celles de l'autotraduction, alors telle que tu la conçois.
Oui, oui, mais de toute façon, je respecte sa liste. Sa liste, elle est en première page du livre, oui. Entière, complète. Mais après, c'est mon poème. C'est juste... Sa liste m'inspire, mais c'est tout. Ouais. Je ne traduis pas Swadesh.
J'ai relevé aussi, je crois que c'était à la page 21, un intercès où je me suis aussi posé, pour lequel je me suis posé beaucoup de questions. Il faut que je le retrouve. Et je ne le retrouve plus, bien sûr. Alors. Oui, voilà. De la même manière aussi, dans la page 21, le terme, je pense, ça doit être « si » en anglais, « to see », et tu traduis par « voir » avec deux « o ». Donc là aussi, alors ça m'amène à poser la question, non plus cette fois-ci de la traduction, mais de la présence importante dans tes poèmes de néologismes, de graphie déformée ou augmentée ou dans la proximité de l'orthographe du mot, mais prenant des libertés avec. Alors, est-ce que tu pourrais en parler de ça un peu, de cette la nécessité de passer par le néologisme d'une manière générale?
Mais de toute façon, la langue est complètement manipulable. Elle doit être transformée en musique et pour ça, elle doit être martelée, moulée, remodelée. Abîmé. La langue devient un objet musical, mais elle ne peut pas résister. Ça ne correspond plus beaucoup à la langue de communication. Évidemment, on peut perdre peut-être une communication avec le lecteur, mais cette langue, la direction, c'est la musique. La langue doit être déformée, les néologismes doivent fourmiller. J'en ai besoin. Je perds peut-être des lecteurs avec ça, mais j'ai besoin de faire cette musique avec le langage.
Mais ça veut dire que la langue en elle-même, le français en l'occurrence, là, n'a pas ce potentiel de musicalité. Non, tu dois l'amener de l'extérieur,
par
les néjeux.
Non, c'est parce que...
Mais sinon, tu n'aurais pas besoin de néologisme. Si.
Parce qu'il y a une tension en moi qui ne me permet pas de parler normalement quand je suis en poésie. La tension est trop forte et je ne peux pas écrire normalement dans le langage de communication.
Donc ça, c'est autre chose que la musicalité de la langue.
C'est une espèce de... C'est le côté art brut, ça.
C'est le côté art brut, mais d'accord.
Je ne peux pas écrire normalement. Et c'est pourquoi il vaut mieux que ça soit transformé en musique.
Moi, je me suis demandé aussi, parce que il y a encore autre chose dans cette espèce d'augmentation de la langue, comme ça. Il y a le fait aussi que, traducteur, tu t'affrontes à des textes qui sont écrits dans des langues que tu ne parles pas, que tu ne possèdes pas. Donc, tu vas aussi, dans la traduction, jusqu'à la limite de l'impossibilité de traduire, puisque je suppose que tu ne parles pas couramment le letton, tu dis que tu as des connaissances de chinois, mais qu'elles sont insuffisantes. Donc, j'aimerais que tu nous parles aussi de ça. Comment tu ne te cantonnes pas, comme font beaucoup de poètes qui sont traducteurs aussi, ils ont une langue ou deux langues de référence, et puis ils traduisent des poètes dans cette langue-là et ne regardent pas trop ce qui se passe ailleurs. Toi, tu fais l'inverse, tu ne cesses d'essayer de repousser les limites de la pratique poétique et de l'usage du français dans la pratique poétique, mais aussi de la traduction, en allant vers des situations dans lesquelles tu es plus en position de surplomb ou tu dois reconstruire une légitimité, disons.
Oui, parce que j'ai plusieurs langues dans la tête, parce que je n'habite plus en France depuis longtemps. Quelquefois, je perds ma langue maternelle aussi, puis je trouve le mot en anglais ou je trouve le mot en français, en allemand. Donc, il y a plusieurs langues qui tournent dans ma tête. Mes deux langues de référence, ce sont l'anglais et l'allemand. Je peux traduire vers le français avec ces deux langues. Mais c'était frustrant. J'avais envie de parler toutes les langues du monde, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça prendrait trop le temps. Et donc, j'ai développé un système qui me permet de traduire de n'importe quelle langue. En principe, il faut que je sois honnête quand même. Faut pas... ouais.
Donc, et ça marche comment, ça ?
Mais oui. je croise des traductions. Alors, par exemple, le poète letton, Imants Zidonis, j'ai trouvé un livre letton allemand. Et puis, sur Internet, j'ai trouvé des traductions anglaises des mêmes poèmes qui étaient traduits en allemand. Donc, je prends la version anglaise, je prends la version allemande, je les croise, je fais ma version française et je compare avec le texte letton, à peu près. Voilà.
D'accord. Et la comparaison avec le texte letton, elle se fait quoi ? En le lisant, tu entends une musicalité, puisque tu acceptes pas. C'est ça, c'est une espèce de musique.
Je fais une recherche un peu sur la langue lettonne. Facile à faire sur Internet. Et puis je cherche une vidéo du poète ou un MP3 et j'écoute comment il parle. Et voilà.
Est-ce que vous avez des questions à poser ? Parce que c'est moi qui pose depuis tout à l'heure des questions. Oui, Michel.
Je voulais savoir, est-ce que si la musique est une langue, est-ce que c'est pour ça que vous grattez la table ?
Oui, non.
Enfin, vous grattez sur la première performance et la deuxième, vous tapotez.
C'est symbolique. Il y a plein de petits gestes au début. Avant de lire le poème qui raconte un peu, pour moi, la genèse du langage, je raconte un peu aussi, avec le silence, les grattements, les cris, comment c'était avant, comment était le langage avant la formation des mots.
D'accord.
Oui, c'est ça. Il y a un chapitre dans le livre de Swadesh où il parle de la genèse du langage à partir des cris des animaux, à partir que les hommes préhistoriques ont peut-être imité, ou comment ils se sont rencontrés sans se comprendre. Ils essayaient de se comprendre, mais ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils n'avaient pas développé le langage. Donc il y a quelques allusions à ça.
D'accord. Puis pendant que j'ai le micro, après je le laisse. En fait, oui, traduction, je sais pas, mais vous, c'est plus que des libertés que vous prenez. Par exemple, quand on entend ce qui nous est le plus cher, on n'entend pas, comme vous le faites en allemand, cher dans le sens inflation. Vous jouez sur l'ambiguïté, j'ai bien compris.
Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pour mes poèmes. Pour mes poèmes, c'est pas de la traduction normale.
Ah non, mais je m'en doute bien. Oui, non, je parle de ce qu'on a entendu tout à l'heure.
C'est de l'auto-traduction qui métamorphose, qui cherche pas l'équivalence. C'est une auto-traduction qui cherche la métamorphose.
Oui, c'est ça.
Oui. C'est pas ce que je fais avec les poètes que je traduis et que je respecte.
J'espère pour eux.
Ouais.
Oui, j'avais une question. C'est que ce soit pour la référence à l'art pictural ou à l'art musical, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous aussi, c'est la notion de rythme. Et donc je me demandais, c'était très flagrant d'ailleurs dans le premier texte, il y a une alternance des rythmes et aussi du récit et du mot concept. Et je me demandais si vous aviez des textes de référence, par exemple, Est-ce qu'il y a, parce que il a été dit dans la présentation que vous étiez aussi un grand lecteur, c'est pas qu'une affaire de surgissement spontané, hein, bien sûr. Et donc, quels sont les textes peut-être qui vous ont imprégné pour cette alternance, notamment rythmique? Bon, c'est une obsession personnelle aussi. Ouais, hein,
mais... C'est peut-être pas tellement les textes, c'est que j'écoutais énormément de musique.
Hein. Ah, certes, plutôt, mais est-ce qu'il n'y a pas des textes de la tradition? Je pense à... Bon, je ne veux pas vous influencer, donc, mais dans la tradition médiévale ou chez les grands rhétoriqueurs, des textes qui vous ont... Qui ah, comptent
oui,
pour
j'ai
vous.
Lu les grands rhétoriqueurs, bien sûr. Ouais.
Ah, par exemple, mais ça, les... ça compte pour vous?
Bah oui.
Parce que l'alternance rythmique, elle est importante. Non, mais c'est pas, alors c'est pas évident pour tout le monde. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des textes comme ça qui ont compté particulièrement pour ce travail sur le rythme et l'alternance rythmique? Alors, je veux pas vous.
Je sais pas. Comment dire, moi j'aime beaucoup Bernard Heitzieck, Christian Prigent.
Ah oui, ça c'est plus récent, oui.
Oui, mais bon, oui, mais avant, où est-ce qu'on trouve les enregistrements? Moi, j'ai évidemment, j'ai écouté Apollinaire sur des disques scratchés. Là,
bon. C'est la dimension orale aussi,
ouais,
hein, ça.
Mais avant, comment on trouve, on peut trouver. Mais je ne peux pas lire les partitions, mais j'imagine. J'imagine. Je crois que j'ai plutôt beaucoup absorbé de musique.
D'accord.
J'ai lu aussi les textes de Schoenberg, par exemple, sur les dodécaphonismes. Ouais. Ou les textes de John Cage, beaucoup de John Cage. Ou Gertrude Stein, elle travaille beaucoup le rythme.
Wittmann aussi, peut-être. Wittmann.
C'est qui?
C'est un auteur, enfin je le prononce peut-être mal.
Walt Whitman. Walt Whitman.
Oui.
Oui, c'est pas très compliqué.
C'est-à-dire?
Ah bah c'est assez simple, Walt Whitman comme rythme.
Oui, mais ça a pu vous, parce qu'il y a.
Bon, il est représentatif pour une poésie orale comme Ginsberg ou l'autre.
Oui, ça, je sais, mais vous, ça a compté particulièrement pour vous?
Bah, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, mais non.
Pas plus que ça.
Pas ouais. Vraiment, non. C'est pas assez compliqué les rythmes. Il y a plusieurs rythmes qui s'entrecroisent et ça, j'aime bien.
Mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire sur la complication, ça me parle, moi, en Suisse, que je suis, puisque tu sais que nos horlogers sont des spécialistes de la complication, mais tu as l'air de dire que c'est une dimension importante, ça, oui. La complication aussi, oui. Y compris dans la question de la fabrication du rythme.
Oui, oui. Parce que j'ai besoin que la langue poétique soit complexe. C'est un besoin viscéral, sinon... J'ai l'impression que je ne peux pas me retenir à quelque chose. J'ai besoin que, ça soit, que la construction soit complexe. C'est comme John Cage qui ne supportait pas non plus trop la simplicité. Enfin, non, je ne sais pas comment dire, mais quand la langue est trop simple, ça revient vers la langue de communication. Ce n'est plus la poésie. Ça va plus loin vers la musique complexe. Et là ça me donne... une rambarde.
Je voudrais pas conclure parce que c'est difficile de conclure, mais j'ai l'impression qu'au fond, cette espèce d'hypothèse d'une langue universelle ou d'une langue commune, etc., que tu aimerais pouvoir parler ou atteindre, mais c'est impossible, au fond, c'est aussi une justification d'écrire de la poésie. C'est-à-dire la poésie est toujours en route vers... une langue universelle possible.
Oui.
Et c'est vrai que de ce fait-là, parce que son but est inatteignable et que c'est une espèce d'utopie du langage aussi, on ne peut qu'être affronté à la complexité, à la difficulté et à ce que dont tu parles aussi assez souvent, c'est cette espèce de mise en ordre du chaos. C'est-à-dire qu'il y a une situation... peut-être de la langue ou des langues à travers leur multiplicité, qui est une situation qui n'est pas très claire. Et la poésie est une manière de clarifier ou d'aller vers une espèce de clarté commune ou générale. Et à ce titre-là, on pourrait reprendre l'expression de Mallarmé, qui dit que la poésie doit rendre plus purs les mots de la tribu. Mmh. Non, tu n'y pensais pas.
Non, je pense pas.
Pas du tout.
Non, le chaos n'est pas dans les langages du monde. C'est très beau qu'il y ait une multiplicité de langages dans le monde. C'est une richesse de l'humanité, la multiplicité des langages.
Mais en même temps, la poésie serait ce qui permettrait de les traverser toutes. Oui, ou de, oui, les, oui, moi, ou de les faire se communiquer plus qu'elles ne le font.
Voilà, il y a plusieurs poètes qui voient que la poésie est une approche d'un langage qui pourrait être universel. Je crois que Marina Tsvetaeva a dit ça aussi. Pour moi, c'est ça. Mais bon, c'est une, d'après les scientifiques, c'est un langage qui n'existait pas. Mais bon, ça, c'est une belle utopie. Et aussi, il pourrait exister en esprit. Cet arbre du langage universel, proto-langue. Et ça fait du bien de s'en rapprocher, en particulier dans la société d'isolation où on est. Ouais, c'est comme un arbre commun à toute l'humanité.
C'est une bonne conclusion, ou une bonne ouverture. Ouais. Je vous remercie. Jean-René est encore là, donc si vous voulez lui poser des questions hors micro, c'est possible aussi. Son ouvrage est là, Ondes des lingots pensem. Sur la table, j'ai mis quelques numéros de la revue pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et encore une fois, merci et puis bravo à Jean-René.